Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue, c'est Côté Club, la quotidienne, en direct du studio 621 de la Maison de la Radio et de la Musique, éclairé comme en plein jour pour accueillir chaque soir toute la scène française et plus si affinité. Ce soir, double jeu pour Camélia Jordana et Mathieu Lambollet. Bonsoir à vous deux.
Bonsoir.
Bonsoir.
Camélia Jordana qui revient en force avec un double album, Facile, Fragile, un disque double face qui témoigne d'une palette de jeux augmentée, retour de la pop, production métissée, chansons d'amour et prise de position engagée. Camélia Jordana qui a fait ses balances pour un live ce soir, rien que pour nous. À ses côtés, Mathieu Lambollet, c'est le compositeur de musique de film qu'on nous envie jusqu'à Hollywood, et de série, dernière bande originale, rien de moins que celle de la série Netflix Lupin avec Omar Sy. Marion ?
Sa chanson Meaning, sortie en 2011, connaît une nouvelle vie grâce à la série Lupin. Eh bien, on va en parler avec Cascadeur vers 22h30.
Voilà, vous savez tout, ou presque. Hein. Maintenant, il reste à tout écouter. Bienvenue au club.
Côté club, Laurent Goumard sur France Inter.
Camélia Jordana, Mathieu Lambollet, déjà rencontrés, vous qui avez en commun la musique et le cinéma?
Mais oui, sur le film de Caroline Fourest, Sœur d'armes, dont Mathieu avait fait la musique.
On s'est rendu compte de ça, en préparant l'émission.
Oui, on s'était rencontrés parce que donc j'ai fait la musique du film de Caroline. Et sur une séquence, il fallait que Camélia, notamment, enregistre des voix. Donc elle était passée au studio.
Ouais.
Et elle avait enregistré.
C'était pour le chant des partisans.
Un moment très doux. Exactement.
Exactement.
Parfaitement.
Vous avez vu le film.
Bah oui, on avait vu le film. On avait reçu Caroline Fourest à l'époque, justement, à la sortie de son film, qu'on avait défendu ici, alors qu'elle s'était fait, matraquer par ailleurs. Enfin bon, on savait très bien ce qu'elle était en train de payer à ce moment-là. Elle le savait aussi. Mathieu Lambollet, on parlera tout à l'heure de la BO pour Lupin, la série Netflix avec Omar Sy. On vous a déjà proposé de jouer dans des. Bah oui, je vous regarde. Oui, dans Panthers.
Exactement.
Ouais. Camélia Jordana. Et depuis ?
Oui, aussi, pas mal.
Et vous refusez, systématiquement ?
Non, pas systématiquement. C'est juste que, comme justement, je crois que la série permet d'explorer des choses beaucoup plus denses qu'en un simple film.
Ouais, qui est développer déjà... un personnage. Ouais.
Exactement. J'attends la vraie bonne. Enfin, non pas que les autres soient mauvaises. J'ai déjà décliné de très belles propositions.
Comme ?
Ah ben non, je vais pas les citer, les pauvres. Mais les pauvres d'ailleurs, parce qu'ils ont fait des choses magnifiques sans moi et c'est très bien. Mais c'est vrai que j'attends le projet pour pouvoir prendre cette responsabilité et la mettre sur mes épaules, parce que c'est énorme quand même.
Par exemple, est-ce qu'on vous a proposé c'est un peu bête. Oui. Est-ce qu'on vous a proposé, je sais pas, en thérapie ou des choses comme ça?
Non, pas en thérapie.
D'accord. Donc d'autres.
Oui.
Mathieu Lambollet, donc vous signez des musiques de films, des musiques de séries, des documentaires. Vous signez aussi de la musique classique, par ailleurs, on y reviendra. Vous n'avez jamais écrit de chansons?
Alors, il se trouve que si, j'ai écrit des chansons. D'ailleurs, j'ai commencé la composition en écrivant des chansons. Quand j'étais au conservatoire, j'écrivais des chansons de cabaret, de théâtre musical. Et par la suite, jusqu'à il y a même... peut-être 2-3 ans, j'avais en parallèle des musiques de films un groupe de pop qui s'intitule Nuit Blanche et voilà, donc je compose des chansons également.
Et vous chantez ou...
Oui, mais enfin, là je ne vais pas me...
pas m'y risquer. En parlant de cinéma, j'ai lu que vous aviez un projet de cinéma comme réalisatrice, Camélia Jordana.
Oui.
Quelque chose lié à l'histoire, à l'Algérie, à la mémoire. Et notamment, j'ai pu lire aussi à vos grands-pères, dont vous avez appris récemment qu'ils étaient membres du FLN.
Il y a quelques années maintenant, mais c'est vrai que sur ma vie, c'est plutôt récent, quoi, du coup, à l'échelle de ma vie. C'est un film, alors il y a une petite coquille dans ce super papier de Libé, dans lequel en tout cas...
Ouais, j'ai trouvé l'information.
Ce projet était évoqué, c'est sur la France plutôt que sur l'Algérie. Mais en tout cas, oui, je suis très très excitée à l'idée de faire ce projet qui serait... présenté, qui est encore en cours d'écriture, avec l'extraordinaire Raphaël Desplechin, qui était vraiment la co-scénariste absolue, enfin de mes rêves, quoi, vraiment. Et on écrit, oui, cette histoire qui serait une espèce d'analyse presque historique, psychanalytique d'un pays, mais ce, au travers d'une relation entre une mère et sa fille.
Et pour la musique, vous la composeriez vous-même ou vous la donneriez à quelqu'un d'autre?
Non, je la donnerai pas à quelqu'un d'autre. Non.
Réalisatrice, compositrice, co-scénariste.
Ça va, Edith.
Actrice aussi.
Je sais pas si je jouerai dedans, je crois pas.
D'accord, pas
en tout cas, je l'écris pas en pensant à ça.
Et ça serait votre première musique de film?
J'avais fait une chanson. J'avais créé une chanson pour le premier film dans lequel j'ai joué, un film de Clément Michel qui s'appelait La stratégie de la poussette. Et en fait, quand il avait commencé à rêver à certains morceaux, il avait pensé à une chanson en acoustique de Lily Allen et qui était donc ma référence absolue pour mon premier album, je m'en rappelle. Et donc il m'avait dit voilà, si t'arrives à faire un truc un peu dans cet esprit-là, donc je m'étais vachement amusé avec mes amis musiciens pour faire quelque chose un peu dans cette veine-là.
De ça s'appelait du pastiche.
Ouais, un peu, ça s'appelait, mais c'était hyper ludique, j'avais adoré faire ça s'appelait le Bibi Song, je crois. Et puis après ça, j'avais chanté pour le petit Nicolas, le générique, j'avais fait la madrague, j'avais repris la madrague. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression d'avoir fait un autre truc, mais je me rappelle pas bien. Je sais plus trop. Si, bien sûr, ce qui nous lie,
En plus,
je me disais qu'il y avait un truc encore.
Le film vient de recevoir le prix de France Inter, en plus.
Ah, bah, magnifique, ouais, le film de Cédric Lapiche, ce qui nous lie, avec cette chanson qu'on a co-écrite, d'ailleurs.
J'ai mélangé avec le film que j'ai adoré, moi, qui est.
Lequel?
Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait.
Ah bon, on vient recevoir un prix?
Ouais,
je savais pas du tout.
D'Emmanuel Mouret, ouais, le prix du masque et la plume, je crois.
Ah, mais génial, formidable. Belle nouvelle.
Très
magnifique.
Bien. On va vous retrouver tout de suite, non pas au piano, mais à la guitare.
Ok.
Pas à la guitare. Non.
À quoi?
À la voix, tout simplement. La guitare, c'est pour Guillaume Ferrand qui va aller s'installer.
Ah, d'accord, qui est à côté.
Non.
Mais j'ai tellement l'habitude qu'il n'y ait plus de musiciens qui viennent nous voir en direct.
Grande chance.
Donc là, vraiment, c'est Hollywood. C'est Cécile B2000 qui a fait la production ce soir.
C'est très grosse production.
Ouais, chance ce soir, dans Côté Club, avec un live donc de Camélia Jordana. Elle a choisi un titre d'une face, c'est Fragile. Cécile lance ce titre comme en écho à ses prises de parole vibrantes et nécessaires, accompagnées donc ce soir par Guillaume Ferrand à la guitare. C'est à vous, Camélia.
Tu parles trop. C'est mieux, chaque fois que tu l'ouvres, ça te fait défaut. Fiera la boca un peu. Je fatigue, tu m'irrites. Je t'assure, t'es gênant. Tous ces mots qui me piquent, respecte-toi maintenant. Silence, silence, montre-moi l'exemple. Ta bêtise est grande, je sais pas comment dire. Avance, avance, avant que je te sample. T'as pas les épaules pour porter cet empire. Silence, silence. Silence, silence. Tu craches trop sur nous. Tout ce dérangement quand tu te montres, tu sais pas comme j'ai honte. C'est si dur, c'est malaise. Je te jure, je les sens. C'est flippant, t'es balèze. Mais ce ton est indécent. Silence, silence, montre-moi l'exemple. Ta bêtise est grande, je sais pas comment dire. Avance, avance, avant que je te sample. T'as pas les épaules pour porter cet empire. Silence, silence. Silence, silence. Si tu voyais ta tête, t'es qu'un enfant en fait. C'est cramé, t'as trop peur qu'on t'attaque. T'as une armée, t'as le trac. Silence, silence, montre-moi l'exemple. Ta bêtise est grande, je sais pas comment dire. Avance, avance, avant que je te sample. T'as pas les épaules pour porter cet empire. Silence, silence, montre-moi l'exemple. Ta bêtise est grande, je sais pas comment dire. Avance, avance, avant que je te sample. T'as pas les épaules pour porter cet empire. Silence, silence. Silence, silence. ce silence. Silence, silence.
Wow. Merci.
Camélia Jordana, en live dans Côté Club. Merci Guillaume Ferrand à la guitare chaloupée. Prise de son ce soir sans les mouches dans les casques. Et c'était Benjamin Troncin. Merci Benjamin.
Silence, signé Camélia Jordana, un extrait de Facile, Fragile, nouvel album de 20 titres, 20 chansons dans des styles différents. Piano, voix, jazz en anglais, une dose de hip-hop, des accents orientaux. J'ai même cru reconnaître un petit peu de reggae. Des chansons d'amour et des textes qui parlent aussi des migrants, comme des femmes. On s'était vu cet été à la Villa Noailles dans le cadre du Mac de l'été. Et vous m'aviez dit, j'ai plein de chansons. Même plus que 20 à l'époque, vous en avez, mais vous en avez plein.
J'en avais beaucoup trop, j'en avais 40.
40 ouais. Ah ouais, d'accord.
J'avais un peu des choses à dire.
En même temps,
on va pas se mentir, cette dernière année et demie était au-delà d'inspirante.
Bon. Manifestement. Ça veut dire que quand même quelque chose s'est libéré dans l'écriture pour ce double album.
Oui, vraiment. Je crois que la rencontre avec Renaud Rebillot était un vrai nouveau départ dans mon rapport à la création. Quand on s'est retrouvés tous les deux pour commencer à potentiellement essayer de travailler ensemble, on a beaucoup parlé, beaucoup ri, et puis est venu le moment où il m'a dit, bon, concrètement,
qu'est-ce qu'on fait?
Ouais, tu veux faire quoi? T'as envie d'aller où?
Et dans quelle direction, hein?
Voilà. Et je lui ai dit que j'avais une grande envie déjà de musique pop. Et qu'en plus de ça, j'avais envie que les chansons soient créées de manière fluide et simple et spontanée et facile. D'où cette chanson, facile aussi, qui est née. Et le fait d'aussi rapidement, parce que franchement, sur la session de 6 heures qu'on a faite, je pense que c'est pendant la dernière heure qu'on a fait cette chanson-là. Et puis le reste du temps, on a vraiment beaucoup échangé. On s'est rencontrés, vraiment, vraiment beaucoup ri. Et voilà, la dernière heure, on a fait cette chanson. Et en sortant de là, en me disant, mais j'ai une chanson là que j'adore, qui nous a pris une heure, quoi. Donc j'y ai pris goût, en fait.
Bah ouais. Donc de travailler, de cette façon-là, presque de travailler en studio, en arrivant, en travaillant ensemble, quoi. Et
oui.
Pas de l'autre côté.
Oui, déjà, le fait de travailler avec quelqu'un, le fait de pas être uniquement dans la solitude, a ouvert ça, et puis le fait d'être face à quelqu'un en qui j'avais vraiment confiance et avec qui j'étais à l'aise musicalement, on parle la même langue aussi, donc
Vous aviez perdu confiance? Après le
je manquais pas de confiance en les gens pour faire de la musique, mais j'avais eu besoin de me prouver que, en tout cas, je pouvais faire les choses par moi-même, je crois.
On va commencer par le début, un album qui s'ouvre sur un hymne féministe, une Marseillaise inversée femme, où vous chantez cela.
Mesdames, mes femmes, prenons les armes, il est temps, usons de nos larmes. Aucun besoin de faire couler le sang, comme seuls savent le faire. Nous nous contenterons de ce simple chant, dès lors que nos cœurs se serrent.
Ce qui se dit dans ce titre se retrouve dans un autre, Si j'étais un homme, avec cette phrase, je demanderais pardon pour les guerres. C'est donc un album qui s'ouvre et qui va revenir sur la violence masculine, la domination masculine, sur les rôles aussi que doivent tenir les femmes, des rôles puissants. À ce propos, je me demande, quand vous, Camélia Jordana, vous lisez un scénario, est-ce que vous veillez à l'image de la femme qui est donnée et que vous allez jouer? Et même chose, quand vous écrivez une chanson d'amour, une chanson de rupture, une chanson d'amour, est-ce que vous vous contrôlez? Est-ce que vous contrôlez vos propos?
Quand j'écris, en fait, je contrôle pas grand-chose, hein, pour être honnête. Quand j'écris, justement, grâce à tout ce travail là de ces deux dernières années, j'écris maintenant. Je suis hyper heureuse d'avoir acquis cette étape là de mon processus d'écriture, en tout cas, qui est quelque chose de très spontané. Pour ce qui est des films, en revanche, je crois pas veiller ou contrôler quoi que ce soit. Je crois que j'ai la chance d'avoir eu des prises de conscience magnifiques grâce à l'époque que nous vivons toutes et tous.
Et qui propose des rôles beaucoup plus ouverts que ce qui pouvait se passer dans les années précédentes.
Ouais. Déjà, mais pas que, mais aussi beaucoup. Et il y a le fait que les prises de conscience mondiales auxquelles on assiste font que moi-même, en fait, c'est venu éveiller une curiosité chez moi qui a fait que j'ai eu envie de lire, de me déconstruire, de m'éduquer, de me rééduquer, en fait. Et Et si vous voulez, ça fait tellement partie de mon identité maintenant que sans traquer la faute, en fait, quand je lis des choses que je ne considère pas OK, elles viennent à moi, je ne les cherche pas, vous voyez.
Vendredi prochain, Victoire de la Musique, vous allez retrouver Pomme et oui, Iseult, que vous connaissez bien, qui partagent vos combats intersectionnels. Oui. Et ça, c'est vraiment nouveau, hein, dans le milieu de la musique, surtout, que les femmes prennent la parole dans leurs textes, dans leur musique, dans la société, parce que la génération précédente se taisait quand même.
Pas tant que ça, il y a quand même beaucoup d'artistes, femmes, féministes, même de la génération de, je sais pas moi, de Dolly Parton, quoi. Enfin, il y a Anne Sylvestre aussi, qui avait des chansons extrêmement féministes.
Mais Anne Sylvestre était mise à côté aussi, dans le milieu de la musique.
Oui, mais c'est là la différence par rapport à ce que vous venez de dire, c'est que vous avez dit, c'est nouveau que les femmes prennent cette parole-là.
Qu'elles l'ont toujours prise, mais...
Aujourd'hui, on leur donne et elles sont entendues.
Mais disons qu'elles la prennent. Parce que si elles attendent qu'on leur donne...
Elles ont essayé de la prendre pendant un paquet de temps. Il se trouve que maintenant, beaucoup de femmes ont des postes de pouvoir et donc elles-mêmes peuvent faire des passes aux autres femmes parce que la sororité existe enfin.
Et elle existe vraiment aussi dans le milieu de la musique.
Ah ouais, entre vous. Point là, en ce moment, c'est épatant. Jour après jour, ça fait un bien extraordinaire.
Donc vous êtes en contact avec Pomme, avec
Iseult,
avec les actrices avec lesquelles vous avez joué. Toute une génération, donc,
se met en place. Dans le cinéma, dans la musique, après, il y a toujours évidemment des hommes, des femmes qui continuent d'être dans ces espèces de schémas, malheureusement, mais parce que, comme moi, jusqu'à ce et je continue à avoir besoin moi-même de déconstruire beaucoup de choses en moi, attention, j'ai encore énormément de travail. Mais c'est vrai que comparé à d'autres hommes et d'autres femmes qui n'ont pas encore entamé leur déconstruction, du coup on rencontre aussi évidemment des femmes qui ne sont pas forcément dans une démarche de sororité parce que pas encore consciente et donc en effet pas déconstruite.
J'adore cette idée de déconstruction.
Elle est nécessaire.
En parlant des victoires de la musique, je voudrais qu'on revienne un peu en arrière.
Oui.
Il y a 2 ans exactement, puisque les victoires c'est vendredi prochain, vous receviez la victoire meilleur album musique du monde. On vous écoute.
Le premier prix que je reçois pour mon travail de musicienne est décerné à mon album le moins écouté de ma petite carrière. Ça n'est de fait pas celui grâce auquel je gagne ma vie. C'est mon objet de création le plus engagé, le plus actuel. Celui qui m'a demandé le plus de travail, le plus d'exigence et le plus de combat. De fait, le moins populaire. J'espère que cette victoire de la musique, d'album du Musique du Monde, permettra à cet album de rencontrer son public.
Vous aviez bien préparé, il y avait un discours, hein. Vous aviez vraiment...
En fait, c'était
un papier pour dire ça.
Oui, mais le papier, je ne sais pas si vous avez noté, c'est un bout d'enveloppe qui traînait dans mon sac. Et en fait, c'est 4 minutes avant d'aller dans la salle, alors que j'étais toute préparée et tout. Je me suis dit, mais attends, mais si je l'ai, il faut que je dise un truc quand même. Et donc, je me suis dit, OK, projette-toi là, dans 4 minutes, imagine que tu reçois cette victoire de la musique pour cet album-là.
Précisément.
Qu'est-ce que t'as envie de dire?
Celui qui avait le moins de succès dans votre parcours.
Ouais. Ouais. Et donc, je me suis dit, mais en fait, c'est l'occasion de pouvoir en parler, en fait, de cet album-là, justement.
Quand vous l'écoutez aujourd'hui, cet album Lost, qui a été difficile, on le sait, avec la maison de disques...
Qui a eu
une vie difficile. Comment vous l'écoutez aujourd'hui? Parce qu'on peut dire que le nouvel double album se positionne, non pas contre, mais en tout cas, un peu plus loin.
Je l'écoute avec beaucoup de tendresse. Je l'aime beaucoup, cet album.
Il n'y avait pas de chanson d'amour?
Non. Non, mais j'avais pas du tout envie de parler d'amour à cette époque. J'avais envie. Non, mais c'était une époque, contrairement à cet album-là, Facile, Fragile, qui est en effet pas du tout contre, qui pour moi est une suite logique, en fait. Il y a le fait que c'est vrai que. Bon, dans Lost. Enfin voilà, c'est un album qui s'appelle quand même Lost, quoi.
Exactement. Il faut bien écouter ce que ça veut dire. Ça veut dire perdu,
C'est un album que j'ai fait parce que j'étais complètement paumée, quoi, et que j'étais très fâchée, très en colère à cause de mon immense. En fait, c'était incommensurable, quoi, le inestimable, la grandeur de mon sentiment d'impuissance face au monde dans lequel j'évoluais. Donc, j'ai eu besoin de parler. En fait, chaque événement des 2-3 années qui ont précédé la date de sortie de cet album était comme des genèses, en fait, pour chacune des chansons. Et une fois que je me suis retrouvée en tournée, à chanter en français, en anglais, en arabe, avec des gens de tous les genres, de tous les âges, de toutes les ethnies, de toutes les origines, ces chants-là qui mettaient de la lumière sur tous ces sujets si durs.
Ouais.
En fait, c'était presque thérapeutique, quoi. Ça m'a vachement apaisée. Donc, je pouvais revenir aux chansons d'amour. mais pas avant.
Marion ?
Moi, je trouve qu'il en reste quelque chose de Lost dans ce nouvel album. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une face qui s'appelle vraiment Facile, qui est la face pop. La face Fragile, moi, je trouve qu'il reste quelque chose de Lost. Il y a quelque chose d'expérimental dans certains titres, quelque chose de beaucoup plus métissé dans le son.
Oui, je suis d'accord. C'est vrai que Facile, je voulais que ce soit une musique facile d'accès, en fait, pour mon public. Et pour le public en général, qui était susceptible de se retrouver avec cet album entre les mains ou dans les oreilles.
Et une fois qu'il est rentré dans l'album, paf.
Le public peut avoir accès à autre chose aussi. Mais en tout cas, il y avait quand même cette idée qui était en tout cas centrale pour moi, qui était que je voulais renouer un lien avec le public, un public plus large que j'avais pas, qui n'avait pas suivi sur Lost,
comme on
au
définit
sens
la
large
pop,
exactement, ouais. Aussi musique. Parce que justement quand j'ai fait Lost, il y avait absolument aucune démarche en fait par rapport au public. C'était très très personnel et très intime comme album. Simplement, il fallait que ça sorte. Il se trouvait que j'avais un contrat avec une grande maison de disques à ce moment-là, et que donc l'album qui est sorti à ce moment-là, c'était ça. Et ils se sont retrouvés à devoir défendre ça. Mais voilà, là où pour Facile et Fragile, j'avais un vrai désir quoi envers le public, et donc je me suis dit ok, j'ai envie de renouer, et donc j'ai envie que mes chansons soient chantables, qu'elles puissent rester en tête et qu'elles puissent toucher les gens de manière plus directe. Là où en effet sur Fragile, alors je trouve qu'il y a aussi des chansons qui sont faciles d'accès et
qui sont
généreuses quoi aussi. Mais c'est vrai qu'en termes de son, ça rejoint Lost parce que aussi Facile, pour être aussi plus facile d'accès, c'est un album qui a pratiquement exclusivement été créé de manière numérique et digitale. Voilà, avec une sonorité très 2021. Là où Fragile, comme Lost, donc mon album précédent, lui est majoritairement créé avec des êtres vivants qui jouent de la musique.
Et il vous remercie, ces êtres vivants. Mathieu Lambollet, ça fait écho.
Donc Guillaume Ferrand, d'ailleurs, ouais, qui est avec nous ce soir
qui était
un allié extraordinaire sur la création de Fragile. Ouais.
Mathieu Lambollet, ça fait écho à votre propre parcours ou ce qui vient d'être dit?
Oui, alors les êtres vivants qui jouent, oui, ça fait.
On aime bien ça.
Oui, particulièrement écho. Parce que, bah surtout en cette période un peu compliquée, moi j'essaye au maximum de travailler avec des musiciens. C'est quelque chose qui se fait beaucoup, disons, dans la musique de film, d'utiliser des sons d'ordinateur. Mais je veille, enfin, en tout cas dans mon esthétique, c'est vrai que je défends l'interprétation et voilà, les instrumentistes.
Quand on titre son album Facile, Fragile, et qu'il y a deux faces, une pop et l'autre, on va dire, plus Lost, pour reprendre les termes de Marion. Est-ce que ça suppose aussi des écritures différentes et des temps de composition différents?
Oui. J'en profite pour préciser, au cas où ça n'aurait pas été clair, que par ailleurs, les sons numériques en question, moi je les adore.
Ah bah bien sûr,
et c'est quand même des gens qui jouent de la musique. Et en fait, je me suis un peu mal exprimée parce que j'ai dit des êtres vivants qui jouent de la musique, ce qui est aussi le cas pour Facile.
Oui,
en fait, pour Fragile,
ils
je parle
rassurés.
D'êtres vivants qui jouent des instruments.
Et non pas des morts vivants.
Et non pas des robots.
Ce sont aussi des musiciens et musiciennes extra.
Non, mais ça ne produit pas le même son, on est d'accord.
C'est pas les mêmes sonorités quoi, l'un est plus ancré dans le temps là où l'autre est plus intemporel, parce que depuis des décennies des gens jouent des instruments de musique. Mais du coup, pour répondre à votre question,
parce que vous ne perdez jamais le fil, c'est là où vraiment vous êtes très très forte,
mais c'est parce que j'aime bien je suis un peu bavarde, vous l'aurez noté, donc je suis obligée d'organiser
j'appelle ça articulé,
je suis obligée d'organiser ma pensée, sinon c'est une catastrophe. Alors attendez, du coup, est-ce que c'est le moment où j'ai perdu la question?
Sur les temps de composition.
Ah oui, c'était ça,
voilà. Ah oui, quand même.
Bah oui, je me fais avoir moi-même. Non, les temps de compo, bah c'est vrai que les chansons, en tout cas, qui sont sur
Facile,
du coup, à part laquelle, à part J'oublie vite, que j'avais faite de mon côté et qu'on a produite quand on est allé jouer en Nouvelle-Calédonie avec Jérémy Châtelain. Donc on était dans notre chambre d'hôtel, dans notre appart hôtel, et du coup il était venu avec toute sa petite station extraordinaire. Donc on a produit le titre là-bas. Sinon, toutes les autres chansons ont été créées, vraiment composées, j'entends, co-composées avec d'autres artistes. Pour ce qui est de Fragile, à part Wild Man, qui a été créé avec Woodkid, pour mon plus grand bonheur, et While You Breathe, qui a été créé avec Tristan Salvati, pour mon autre grand bonheur, Toutes les chansons, en effet, ont été composées par moi seule et écrites aussi. Ce qui fait que, en effet, la composition déjà était nocturne. De manière totale et oui, je pense que ça prenait un peu plus de temps parce que c'était quand même assez rapide parce qu'en fait, si vous voulez, les chansons qui arrivaient la nuit, c'était après mes sessions de jour avec toutes ces personnes. Donc je suis rentrée
dans un exercice, une sorte de marathon.
Exactement,
en fait.
Une espèce de processus créatif comme ça qui s'arrêtait jamais, comme c'est une gymnastique, un peu comme une athlète comme ça qui arrive vers son championnat et qui doit pratiquer. Et l'écriture et la composition, je vois ça aussi comme ça. C'est vraiment un artisanat. Un jour on se lève, on a fait une table avec quatre pieds. Bon, elle tient debout, c'est chouette. Et puis un jour on se lève et on fait la plus belle table de notre carrière. Bon, mais ça se pratique. Et c'est un peu comme ça finalement que les chansons de Fragile sont nées, je crois.
Camélia Jordana, vous restez avec nous. On a rendez-vous dans un instant avec Marion Guilbeault. Puis ce sera Gros Plan sur Mathieu Lambollet qui signe la BO de la série Lupin. Mais tout de suite, on vous retrouve en live pour le duo, plutôt le trio que vous formiez avec les deux frères de Terre Noire. C'était pour l'Hypernuit, le 23 janvier dernier au studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique. Concert événement 100 artistes, 21h, 3h du matin. Et vous aviez choisi un titre d'Alain Bachung, Vertige de l'amour, dans une version superbe. On va l'écouter. Vertige de l'amour, c'était votre idée?
Je l'ai proposé parce qu'ils avaient proposé une première chanson d'Alain Bachung et puis je la trouvais hyper difficile à chanter et on était tous les trois dans une période très intense. Donc on s'est dit bon, je crois qu'on la connaît un petit peu plus quand même, Vertige de l'amour, et c'est une chanson que j'adore. Je connaissais la version de Sarah Murcia qui a été l'inspiration première pour l'arrangement de Bastien Doremus, qui était en charge des arrangements avec les musiciens extraordinaires par ailleurs, il faut le dire quand même, qui ont accompagné toute cette soirée.
Super.
Ils sont exceptionnels. Donc c'était super joyeux, ouais.
Ça me prend les jours fériés quand Gisèle clappe dehors. J'ai crevé l'oreille,
j'ai crevé l'oreille.
J'ai dû rêver trop fort,
j'ai dû rêver trop fort.
Ça me prend les jours fériés quand Gisèle clappe dehors.
Vertige de l'amour, Terre Noire et Camélia Jordana, c'était pour l'hypernuit sur Radio France, hein, sur toutes les chaînes musicales. C'est pas mal, hein ? C'est la première fois que vous la réécoutez ?
J'avais essayé de l'écouter quand même en podcast.
Ouais,
je
on
crois.
Peut la podcaster, ouais.
Ouais, et j'étais assez contente du résultat. Je trouvais ça très doux, puis d'autant qu'on l'avait fait
à la vache. Je me rappelle.
Ah ouais, des balances très très rapides et tout ça. Ouais.
Ah ouais, non, mais
super sax d'Adrien Soleiman.
Ouais, mais Adrien Soleiman, moi j'aimerais qu'il joue dans mes oreilles avant que je dorme.
Ah, bah, voilà. On va lui demander.
Ouais, là, c'était super.
Côté club.
Côté club.
Laurent Goumard,
tout
sur France Inter.
Marion, on part au téléphone ?
Mais oui, on va rejoindre Cascadeur, je crois que vous vous connaissez, Camélia.
Oui, avec ça Alexandre. Fait des années qu'on n'a pas tchatché.
Bonsoir Alexandre, bonsoir Cascadeur.
Bonsoir.
Vous connaissez tout le monde, Camélia Jordana ?
Mathieu Lamboulé.
Camélia un peu mieux et Mathieu Lamboulé.
On se connaît pas,
non, je crois. Vous partagez
quelque chose,
c'est sûr.
Oui, on partage quelque chose.
Retour avec vous donc, Cascadeur, sur une de vos chansons, Meaning, une chanson qui était présente déjà sur votre premier album, Human Octopus, c'était en 2011. Vous vous rappelez de l'écriture de cette chanson, qu'est-ce qu'elle raconte ?
Ah oui, l'écriture, bien comme souvent, oui, c'est un morceau que j'ai composé au piano, parce que je suis exclusivement pianiste. Ouais. Et c'est vrai que c'est un morceau qui traitait un peu de la signification en général. Je voulais que ce soit quelque chose d'ouvert, parce qu'il me semblait que c'était un morceau un peu ouvert, comme ça. Et puis, je ne sais pas pourquoi, j'ai pensé au Monty Python.
Ah oui.
Alors, c'est pas du tout un morceau drôle,
bah,
mais je crois que j'ai pensé à eux. Et finalement, au sens caché, etc. Et bon, voilà, c'est parti comme ça. Et ensuite, c'est une histoire très particulière parce que c'est un morceau qui est apparu sur le premier album, a priori. Mais c'est un morceau qui a été doublé. C'est-à-dire qu'il a été enregistré dans une première version pour Quatuor Accord. Et puis, dans le même temps, je travaillais avec une très belle chorale d'adolescents. Donc, c'était un collège-lycée de Cognac. Et j'ai été un peu fasciné par ce travail qu'on a organisé autour d'une année, c'était avant la sortie de l'album, que j'avais décidé qu'ils me suivent sur les Francofolies de La Rochelle. Donc c'était un concert un peu incroyable, puisque c'était la première fois que j'y jouais, et on était, je crois, une cinquantaine sur scène, donc avec les enfants masqués, etc. Et c'était incroyable, donc on a pu aussi nouer des liens. Et puis, on a enregistré avec, on va dire, je vais les appeler les quatre grandes filles de la chorale, qui étaient en première et terminale à l'époque. On a enregistré une version à la sauvette, puisque je devais repartir au terme d'enregistrement avec la chorale. J'avais mon train qui m'attendait, j'avais mon petit enregistreur. Elles m'ont amené dans une maison, il y avait un piano acoustique. J'ai posé mon enregistreur, elles se sont placées autour de moi. On a fait une prise en direct, j'avais plus de place sur mon enregistreur. Je voulais en faire une deuxième, j'avais plus de place. Je suis reparti à la maison, dans le train, j'ai écouté un peu. Je suis rentré à la maison, je me suis dit, ah, c'est quand même très sensible et touchant. Et j'ai décidé de garder la prise telle quelle. J'ai juste rajouté mes voix, démultipliées sur le deuxième couplet. Là, j'ai enregistré une sorte de mini-chorale à moi tout seul. C'était un exercice un peu mégalomane. Et donc, j'ai démultiplié 10 voix comme ça. Puis, j'ai enregistré très vite, au contraire de tous mes morceaux. Et
elle s'est retrouvée en piste fantôme, hein, c'est ça ?
Voilà.
Sur l'album Human Octopus.
J'ai trouvé important qu'on se retrouve finalement avec la chorale et la mini-chorale des quatre filles. Et j'ai demandé au label si on pouvait, si ça leur semblait intéressant, qu'on place ce morceau en morceau fantôme. Et on l'a fait. Donc ça s'est décidé comme ça. C'est un peu l'histoire du morceau. Et finalement, c'est sans doute le morceau qui a été le plus écouté de ce que j'ai pu faire.
Parce que c'est complètement dingue aujourd'hui. La Meaning, donc, il connaît une nouvelle vie avec la série Lupin sur Netflix. Ouais. Il apparaît à la fin de l'épisode 4. Hein, c'est un moment tragique, crucial de l'intrigue. Ouais. C'est pas la première fois d'ailleurs qu'une de vos chansons est utilisée dans un film, dans une série. Il y avait Walker qui avait été dans Clash, dans Sheriff. Meaning, déjà dans la pub Nestlé. Dans Le Sens de la Fête aussi. D'Eric Toledano et d'Olivier Nakache.
C'est le jackpot, ouais. Hein, cette chanson. Ouais. C'est vraiment...
Est-ce que vous pensez ouais. quand même, Cascadeur, que vous avez un son particulier qui appelle ce genre de proposition?
Ah. Alors là, je suis très mal placé pour le dire. Ben là, c'est le son de la vie sur ce morceau-là, c'est sûr, parce que il y a plein de parasites, il y a des saturations. Mais ça, là, c'était vraiment. On parlait d'être humain tout à l'heure, apparemment. Et ouais. là, on est vraiment dans l'humain avec tous ces accidents et puis ces oiseaux qui chantent au fond. Si on écoute au casque, moi, j'entends toujours ces oiseaux. Et je ne sais pas s'il y a un son cascadeur. Il y a peut-être effectivement l'idée d'incorporer les accidents. C'est pour ça aussi que je voulais m'appeler Cascadeur, c'est de présider aux accidents. Et ça, c'est je crois que c'est un grand jeu. Et alors, on est sur le fil, hein, ça marche pas toujours. Mais là, ça a été, ça a été un peu une rencontre incroyable autour de cette chorale. Et puis ensuite, avec cette relation qu'on a pu cultiver et élargir dans le temps, puisque je suis toujours en contact avec ces jeunes filles qui sont maintenant bien grandes. Et puis justement, on travaille en ce moment. Voilà, elles ont presque 10 ans de plus, oui, je crois, normalement. Et on continue à essayer de travailler ensemble, là, justement, peut-être pour le prochain album. Oui.
Et donc, Cascadeur, à part compter les dollars là qui s'accumulent sur votre compte en banque, qu'est-ce que vous faites en ce moment? Un quatrième album en préparation?
Je cambriole
ah ouais.
en ce moment.
Ah oui, ouais,
déguisé. Non, mais pas masqué. Du tout là. Vraiment, je vis surtout. C'est vrai que c'est bon. Il y a une symbolique. Hein, c'est faire en sorte qu'un morceau fantôme vous fasse revivre.
Ouais. Ah bah voilà.
C'est aussi, on peut s'interroger, le sens. Il est là, le sens.
Mmh. Il est complètement
donc moi
là.
Qui étais toujours un peu fasciné par ces idées de fantômes, etc. Eh bien là, on a l'exemple précis d'un fantôme qui fait revivre.
Trop beau.
Donc c'est rassurant pour la suite de nos existences.
Ouais. Merci beaucoup, Cascadeur. Bon, on va se quitter avec cette version chorale fantôme de Meaning. Et bien sûr, j'encourage les auditeurs à ne pas s'arrêter là et à découvrir vos 3 albums. À bientôt. Meaning, signé Gentleman Cascadeur ce soir dans Côté Club.
Côté Club.
Bienvenue au club.
Tout. Sur France Inter.
Et on continue avec Lupin, mais avec la bande originale que vous signez, Mathieu Lambollet. Vous êtes pianiste, compositeur, bardé de prix, plébiscité par Michel Legrand en France, par Hans Zimmer aux États-Unis. Vous avez signé des bandes originales pour le cinéma. Je pense par exemple au prochain film d'Emmanuel Carrère qui devrait sortir cette année, Le Quai de Ouistreham, avec Juliette Binoche. Des films de documentaire, Bardo la méprise de David Teboul. Et aujourd'hui, Lupin pour Netflix. Le jackpot, vous aussi, vous comptez vos dollars comme l'ami
Cascadeur.
Cascadeur. Non, c'est vraiment les oncles Picsou. Hein. hein, ce soir.
Voilà. Oui, je compte tous les journées de l'art. Non, bah, c'est vrai qu'on. Enfin, je pense qu'on est tous très contents du succès que remporte la série.
Et pas simplement qu'en France.
Pas qu'en France, dans le monde entier. Honnêtement, c'est quand j'étais sur le projet, à la premier visionnage, moi j'avais déjà le premier épisode, j'ai vu qu'il y avait une grosse ambition, qu'il y avait de très belles images, un montage parfait et ne serait-ce que le thème, j'avais entendu parler de la série Lupin il y a déjà quelques années et
de ce projet
et en fait c'est grâce à mon agent que j'ai
oui parce qu'il y a un casting de compositeurs.
Exactement,
on va y revenir. Vous avez vu la série, vous, Camilla Giordana?
Mais non, toujours pas.
Et ben voilà, séance de rattrapage.
Je trépine.
Alors Lupin pour des générations, les autres générations, pas les vôtres, c'était le plus grand des voleurs.
C'est le plus grand des voleurs. Oui, mais c'est un gentleman.
Donc, on se rappelle la chanson de titre avec Jacques Dutronc, mais la musique générique, c'était autre chose, c'était ça, on est toujours dans les années 70. Personne n'était né autour de cette table,
si.
À part moi, et peut-être
moi,
Marion,
je le voyais.
Venait juste,
je venais de naître.
C'était un embryon. J'imagine que vous n'avez pas écouté les
Alors
versions.
Non, et d'ailleurs j'essaye d'être toujours vierge de toute influence quand je commence un projet. Et je n'ai pas forcément voulu m'inspirer de ce qui avait déjà été fait sur
le sujet.
Mis à part les romans que je connaissais déjà, que j'avais lu.
De Maurice Leblanc.
Voilà,
2021, ça recommence, il y a votre Arsène. Avec plein d'êtres vivants qui jouent de la musique.
Un
maximum d'êtres vivants. Ouais. Ça, c'était votre Arsène, mais il y a aussi votre Lupin. Mathieu Lombolet, est-ce qu'il y avait un cahier des charges? Parce qu'on voit bien, c'est un homme double, face gentleman, face cambrioleur, un peu comme facile, fragile, interprété par Omar Sy, alias Arsène Diop. Ça ouvre des pistes, j'imagine, pour la composition.
Ah oui, effectivement, il y avait un cahier des charges, ne serait-ce que le sujet, il fallait mettre en musique tout le côté espionnage et malicieux aussi du personnage et à la fois grandiose, donc il y avait une ambition à la fois d'envergure et de suspense et mon idée première a été de partir de la série, enfin du thème de la série qui à mon sens est la notion d'héritage. Alors je vais pas te spoiler, Camilla, parce que non mais là je ne vais pas spoiler parce que je vais pas simplement parler du premier épisode, enfin en tout cas en l'occurrence le sujet de la série, qui ne parle pas d'Arsène Lupin, mais qui parle d'Arsène Diop, qui récupère l'héritage d'Arsène Lupin. Et ce que j'ai voulu faire, c'était au même titre que j'ai mon propre héritage classique, de mes influences, qu'elles soient
votre formation, référence classique, ouais.
et de prendre cet héritage là et le mettre au jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire avec un mélange un peu plus actuel, que ce soit des rythmiques plus actuel, peut-être un peu hip-hop, donc c'était un peu mon enjeu.
Qui valide justement? Est-ce que c'est Omar Sy qui valide? Est-ce que c'est la production? Est-ce que c'est les réalisateurs? Parce qu'il y a deux réalisateurs pour l'instant.
Pour l'instant, il y en a deux. En fait, il y a beaucoup de réalisateurs sur la série. Là, c'est vrai que c'est la première fois que je travaille pour Netflix, et c'est un process un peu particulier. C'est une grosse machine, donc il y a des processus de validation assez ténus. En fait, ce qui se passe passe, c'est que quand on arrive sur la série, moi j'avais les trois premiers épisodes, et l'idée a été de trouver la couleur, un peu comme le showrunner, c'est-à-dire qu'on doit trouver l'esthétique dès les premiers épisodes, et ça c'est évidemment un dialogue avec la production. Donc j'ai proposé des thèmes, j'ai proposé ce que je ressentais, disons, par rapport à tout l'univers, et il y avait une validation ou pas de Netflix. Une fois que l'univers a été vraiment inscrit dans ces trois premiers épisodes, j'avais une liberté, j'ai pu le développer tout au long des épisodes. Donc là, je suis sur la saison 2. Et voilà.
Vous étiez déjà repéré hein, dans le monde de la musique, de la composition de films. Vous avez dû quand même faire un casting.
Ah oui, alors oui, c'est effectivement...
Casting
de compositeur, ça arrive souvent en
pour le prochain film de Camélia Jordan, il n'y en aura pas, puisque le casting, c'est elle.
Voilà, c'est son propre casting.
Je vous dis ça aujourd'hui, attention.
Non, mais c'est effectivement quelque chose qui arrive assez fréquemment. Quand des producteurs ou des réalisateurs n'ont pas forcément un nom en tête, ils vont proposer à plusieurs compositeurs de faire des essais sur des images. Et c'est ce qui s'est passé, c'est qu'on était plusieurs compositeurs, on a eu deux séquences et on a proposé. Évidemment, il y avait déjà un brief de départ qui était celui dont on a parlé tout à l'heure, donc cette notion d'espionnage, d'héritage. Alors l'héritage pas tellement, ça c'est plus moi après, par la suite, que j'ai essayé de travailler cette piste-là. Là, c'était le brief, c'était vraiment de mélanger le grandiose avec le suspense et la malice.
Quand vous avez fait le conservatoire, vous vous destiniez à la composition de musique de film ?
Alors non, pas particulièrement. C'est,
ça vous est tombé dessus ?
Oui, ça m'est tombé dessus un peu par hasard. Non, donc j'ai fait mes études en piano et dans les classes de composition, enfin d'écriture au conservatoire. Mais j'ai toujours composé des petites pièces et j'avais pas beaucoup de projets. Ce que je vous disais tout à l'heure, notamment
de chansons,
avec le théâtre et pour moi la musique de film, m'est tombé dessus. C'est vraiment un concours de circonstances et que j'ai trouvé une petite annonce au conservatoire d'un étudiant des arts décoratifs de Paris qui recherchait un compositeur pour son film de fin d'études. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas ? Et tout de suite, j'ai adoré travailler pour l'image. Pour moi, en tant qu'artiste, c'est intéressant d'avoir une source d'inspiration, que ce soit des textes ou je sais pas, un tableau ou une image. Je pense que c'est important d'avoir une base en fait, qui après nourrit l'inspiration.
Vous avez travaillé avec Michel Legrand ou pour Michel Legrand ? En fait, vous avez produit, enfin, vous avez, on va dire, il avait des projets inachevés, hein, puisque Michel Legrand a disparu, et c'était vous, presque, l'organisateur testamentaire.
C'est
la légende urbaine.
Michel Legrand, donc j'avais rencontré plusieurs fois Michel Legrand, et il avait des projets, il avait effectivement un projet d'opéra, qui s'est toujours pas fait, j'avais par ailleurs fait des arrangements sur ses chansons, qu'il avait entendues, et je crois qu'il avait apprécié, enfin, en tout cas, je pense qu'on avait le même sens artistique au sens orchestral et quand on s'est rencontrés, il avait dit à sa femme, Macha Merrill, que je pourrais éventuellement reprendre et retravailler sur son opéra inachevé. Bon, en l'occurrence, ça s'est pas encore fait, mais voilà.
Pourquoi on vous appelle Batman ?
Alors, ça c'est une petite anecdote, parce qu'on parlait tout à l'heure de compétition, enfin disons de concours pour la musique de film. Et ben il se trouve que sur mon premier long métrage, qui est Libre et assoupi de Benjamin Gedge, il y avait un appel d'offres et on était, je crois, 8 compositeurs. On avait chacun un nom de code, enfin un nom de super héros. Et en l'occurrence, le mien était Batman. Et donc Benjamin Gedge a dit j'ai envie de travailler avec Batman. Donc voilà, c'est une petite anecdote.
Ça n'a rien à voir avec Hans Zimmer ou quoi que ce soit.
Alors non, pas du tout. Non, enfin voilà, Hans Zimmer, je l'avais rencontré, mais rien à voir. Non, ce n'est pas en rapport.
C'est par le cinéma d'animation en fait que vous vous êtes fait un nom au départ. C'est ça qui est intéressant en fait.
Oui, le tout premier film dont je parlais tout à l'heure était un court-métrage d'animation, ouais. Les oreilles n'ont pas pu vieillir, qui a eu un prix au Festival d'Aubagne. Et par la suite, j'ai plus travaillé sur des documentaires et sur des longs métrages. Et il se trouve que je renouais avec l'animation très récemment avec Minuscule 2.
Minuscule 2, ouais.
Voilà, mais
pour lequel vous avez remporté des prix.
Justement. Oui aussi, oui. C'est un très beau projet. Effectivement, on avait eu la chance d'enregistrer avec un très bel orchestre, avec l'Orchestre National d'Île-de-France, et c'était une très très belle expérience.
Quelle était la place de la musique dans votre famille, Mathieu Lombeau?
Ah, mon père est guitariste. De jazz. Mon oncle est batteur de jazz. Et voilà, donc la musique existe depuis quelques années. C'est vrai que mon grand-père était accordéoniste, donc je pense que la musique était assez présente dans la famille. Et je pense que c'est peut-être ce qui a nourri mon envie de faire de la musique.
Et dans votre famille, vous, Camélia Jordana, quelle était la place de la musique?
Assez central, mais sans trop que ce soit dit. Quoique si, parce que ma mère, quand elle a décidé qu'il était temps pour ma sœur et moi de nous mettre à la musique, je me rappelle de cette scène, on était vraiment minuscules.
Minuscule 2, c'est le titre de son film.
Et elle m'avait dit, elle nous parlait de la musique et puis elle avait fini en larmes, quoi. En nous disant à quel point la musique c'était au-delà de tout, je me rappelle de cette scène-là. Et elle faisait aussi du chant lyrique, ma mère, quand j'étais petite. Elle nous emmenait à ses cours avec ma petite sœur. Donc, je crois avoir appris à chanter en même temps que j'ai appris à parler un peu sans trop faire gaffe, je crois.
Mathieu Lamboulet, une dernière question. Quel aura été le réalisateur le plus musical avec qui vous avez travaillé ou qui vous aura fait grandir, justement?
Oula, c'est...
Avec lequel vous aurez eu des conversations véritablement sur qu'est-ce qu'une musique de film, qu'est-ce qu'une musique, qu'est-ce qu'une image?
C'est... En fait, chaque réalisateur est musicien d'une certaine façon.
Oui, il y en a qui s'en foutent, hein. Ouais. Je peux vous le dire. Hein.
J'ai eu la chance, en tout cas, de tomber sur des réalisateurs qui ne s'en foutaient pas et qui sont, disons, pour qui la musique est vraiment quelque chose de très important. Et c'est-à-dire que évidemment, il y a des réalisateurs qui ne sont pas musiciens, donc ils ne vont pas employer les termes techniques, oui. Mais ils auront toujours une sensibilité. Et à mon sens, quand on écrit de la musique pour le cinéma, c'est surtout un métier de traduction. On va être avec le réalisateur, il va nous exprimer ce qu'il veut, enfin les émotions qu'il ressent quand il écoute la musique, et nous, on va essayer de les transcrire en termes techniques pour faire en sorte que ça lui plaise.
Par exemple, pour le Quai de Ouistreham, qu'est-ce que Emmanuel Carrère vous a demandé?
Qu'est-ce qu'il m'avait demandé à l'époque? Ah oui, alors si. Oui, c'est vrai que comme le film n'est pas sorti et qu'on l'a fini,
il est prêt depuis très longtemps.
Il y a quatre films qui doivent sortir.
Ouais. Sortir, ouais.
Alors avec Emmanuel, c'est alors oui, c'est ça. À la base, en fait, le film ne nécessitait pas de musique. Et c'est le producteur qui a dit non, quand même, il faudrait que tu mettes une musique dans ton film. Et la première chose que m'a dit Emmanuel, c'est écoute, il faut que la musique elle soit là, mais sans être vraiment là, il faut pas que ce soit trop expressif. Donc tout l'enjeu était de faire une musique.
De faire oublier la musique.
Non, alors c'est pas de la faire oublier, mais c'est d'avoir une sensibilité, enfin d'avoir une musique qui soit pas trop expressive et à la fois qui puisse toucher. C'était pas évident parce qu'il fallait être toujours trouver le curseur juste entre l'émotion l'émotion juste et si on était tout d'un coup c'est un terme technique, mais si on avait un violon qui vibrait trop, ça sortait du film et Emmanuel ne voulait pas. Donc c'était même en termes d'interprétation quand on enregistrait, c'était pas évident parce qu'il fallait être sur la corde, enfin pour une petite expression.
Dans les films dans lesquels vous avez joué, Camélia Jordana, est-ce qu'il y a des musiques qui ont retenu plus particulièrement votre attention?
Sœur d'armes, du coup, déjà.
Ouais, bah ça,
quand même. Ouais. Et puis, Rhône, dans La Nuit Venue, ouais, je trouve qu'il a fait une BO magnifique. Je trouve qu'il a fait une BO magnifique et j'espère sincèrement qu'il sera au moins nommé, en tout cas, dans les musiques originales cette année au César, dont les votes se clôt dans 1 h 3 min.
Donc vous saurez dans 1 h 3 min si vous êtes aussi parmi les actrices.
Je crois que c'est quand le 10. Je sais pas quand c'est le 10, mais je sais que c'est le 10 qu'on sait.
C'est demain.
Après demain. Ah oui, après demain.
Voilà.
C'est
ça, Rhône a fait. Bon, c'est un film après aussi pour lequel, pas uniquement, mais la musique est quand même au centre. C'est-à-dire que le personnage est un ancien DJ et crée de la musique pendant le film, et donc et on assiste d'ailleurs avec Wong Ho, dont j'espère aussi sincèrement qu'il sera nommé dans les révélations, un concert de Rhône, justement. C'est ce sur quoi on a ouvert le tournage. C'était notre premier jour au Luxembourg pendant un vrai concert de Rhône. Donc j'ai eu la chance de découvrir Rhône sur scène en étant filmée pour le film. Et du coup, j'ai un peu découvert une partie de la BO aussi, comme ça.
En même temps.
Mais Rhône, je trouve qu'il a fait un travail magnifique parce que, un peu comme tu le disais très justement, il y avait ce truc où à la fois la musique a une place centrale, parce que quand il y a de la musique, souvent c'est parce qu'il y a de la musique de manière narrative, en fait. C'est-à-dire qu'elle a, elle s'inscrit dans l'histoire qu'on voit à l'image. Par exemple, il est, au cybercafé, en train de jouer de la musique et d'essayer de faire du son. Et puis, en fait, ça se transforme et ça devient vraiment de la musique à l'image. Donc, ce passage comme ça du réel au soutien de l'image est très, très maîtrisé, je trouve, et très réussi.
Eh ben merci à vous deux. Merci, c'est la fin de Côté beaucoup. Club. Merci Camille Jordana.
Merci à vous.
Facile, Fragile, c'est le nouvel album Double Effet. On se donne rendez-vous vendredi prochain pour les Victoires de la Musique, puisque je le rappelle, vous êtes nommé dans la catégorie chanson originale avec Facile. Et puis on attend la tournée en France, Suisse et Belgique à partir du 22 septembre. Ouais. Vous avez le temps, vous pouvez me préparer. Et une salle Pleyel le 25 novembre, c'est dit. Mathieu Lambollet, merci.
Merci.
On peut vous écouter à chaque épisode de la série Lupin sur Netflix, et puis on attend tous les films qui doivent sortir, hein, parce qu'il y en a 4 en attente, avec vos musiques à l'intérieur. Marion ?
Ben on peut redécouvrir Meaning, le titre de Cascadeur qui connaît une nouvelle vie grâce à Lupin.
Côté club, ce soir, c'était avec Juliette Medevielle à la réalisation, Benjamin Troncin à la technique, Alexis Goyer, Marion Guilbault, Virginie Rouzic pour la programmation, avec la collaboration de Marc Gauthier et bien sûr Muriel Pérez aux playlists. Demain, on a rendez-vous à 22h ou absolument quand vous voulez en podcast avec Chaton et Twenty, tendance reggae. Et vous, Marion ?
Focus sur le fer qui révèle sa première sélection 2021. 7 artistes soutenus pour le live et ils en auront bien besoin. On sera en ligne avec l'un d'entre eux.
Côté club, on ferme. Je vous souhaite le bonsoir. À demain.